France Inter.
Il est précisément 23h et vous écoutez France Inter. Tout de suite, c'est le journal avec Luc Chemla. Bonsoir Luc.
Bonsoir à tous. Le gouvernement reprend la main sur l'assurance chômage. Les négociations n'ayant pas abouti sur notamment l'emploi des seniors, l'exécutif fixera lui-même de nouvelles règles d'indemnisation. Explication dès le début de ce journal. Les syndicats promettent une mobilisation record. Journée noire en perspective ce jeudi dans les aéroports. Les contrôleurs aériens appellent à la grève. Après les graves accusations d'Israël contre l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, un rapport indépendant a été publié aujourd'hui. Ça y est, les débats ont débuté à New York au procès de Donald Trump et vous l'entendrez, le ton est déjà donné. Et puis on peut le dire, elle est un peu plus près des étoiles. La Française Sophie Adenau vient de décrocher son diplôme d'astronaute.
France Inter.
C'est l'une des conséquences de l'échec il y a près de 2 semaines des négociations sur la vie au travail et l'emploi des seniors. L'État reprend la main sur l'assurance chômage et il va fixer lui-même les nouvelles règles d'indemnisation qui vont d'ailleurs être durcies. Cela se fera à travers un décret le 1er juillet, Agnès Soubiran.
Un décret dit de carence et qui s'appuiera sur le document de cadrage de l'été 2023 qui prévoit des économies sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Alors le ministère du Travail répète que rien n'est décidé, que rien n'est acté, que des consultations auront lieu dans les semaines qui viennent avec les partenaires sociaux, qu'il existe, je cite, des choses intéressantes dans le projet d'accord des syndicats qui n'a pas abouti, mais l'objectif reste un durcissement des règles. Le Premier ministre a d'ailleurs la semaine dernière énoncé les 3 leviers possibles, la durée d'indemnisation, la condition d'affiliation, c'est-à-dire le temps qu'il faut avoir travaillé pour être indemnisé, et enfin le niveau de l'indemnisation. Gabriel Attal n'est pas favorable à une baisse du niveau des versements, mais préférerait durcir les conditions d'affiliation et réduire la durée d'indemnisation, durée qui est déjà passée de 24 à 18 mois il y a un peu plus d'un an et qui pourrait descendre à 12 mois. La CGT parle ce soir d'un nouveau saccage après les réformes déjà controversées de 2019 et 2023. Et pour la CFE-CGC, il reviendra au gouvernement d'assumer les conséquences sur la consommation et la politique des diminutions des droits des chômeurs.
Et qui veut tuer son chien l'accuse de la rage, écrit de son côté Force Ouvrière ce soir dans un communiqué. Grosse pagaille en vue jeudi dans les aéroports en France. Après l'échec des négociations avec la Direction Générale de l'Aviation Civile, une grève des contrôleurs aériens est prévue et son principal syndicat annonce ce soir une mobilisation record est attendue, ce qui impliquerait donc de nombreuses annulations de vols et cela en pleine période de vacances scolaires. Selon les premières estimations, jusqu'à 70% des avions prévus ne pourrait pas décoller. L'appel est lancé pour protester contre le projet de refonte du contrôle aérien. Les négociations ont commencé il y a déjà plus d'un an et sont au point mort, déplore Émeric Bidet, secrétaire national de CFDT Aviation Civile.
Pour nous, il est important que l'accord collectif qui est en train d'être négocié par notre administration depuis maintenant plus de 15 mois garantisse des engagements salariaux pour tous les personnels. Et au bout de 15 mois, force est de constater qu'on arrive avec une version 4 de cet accord collectif qui est moins bonne que la version 3. Quand on parle de toutes les restructurations et réorganisations et modifications de l'organisation du temps de travail des personnels, on se rend compte que l'administration ne fait aucun effort de ce côté-là. Il y a toute une réorganisation côté navigation aérienne, du maillage territorial avec des suppressions de tours de contrôle. C'est des aéroports qui permettent de désenclaver certaines régions. Et pour l'instant, on n'a même pas la liste de toutes les tours de contrôle qui vont fermer. Ce qui nous importe avant tout, c'est qu'il y ait un équilibre entre ce qu'on demande aux agents en termes d'organisation du temps de travail et en termes de revalorisation salariale. On est sur des métiers où la sécurité est importante et on ne veut pas faire n'importe quoi avec l'organisation du temps de travail des personnels.
Émeric Bidet de la CFDT au micro de Magali Homo. Et d'après la Direction Générale de l'Aviation Civile, des discussions restent possibles jusqu'à demain midi. Sacrée galère en perspective donc dans les airs, mais sur les rails, tout est au vert. À la SNCF, une grève des contrôleurs s'éloigne pour le mois de mai. Les 4 syndicats représentatifs ont signé un accord aujourd'hui avec la direction sur les fins de carrière des cheminots. Ils prévoient entre autres une amélioration du dispositif de retraite anticipée. Les automobilistes vont devoir s'armer de patience. L'autoroute A13 entre Paris et Vaucresson restera fermée dans les deux sens pendant encore au minimum une dizaine de jours. La préfecture des Hauts-de-Seine vient de l'annoncer. Pas de réouverture avant au moins le 1er mai. Cette portion de route très empruntée à l'ouest de la capitale est fermée depuis déjà jeudi. Après l'apparition d'une fissure sur la chaussée, elle est liée à un mouvement de terrain. Beaucoup de questions entourent toujours la blessure par balle de Kenji Girac. Le chanteur révélé par l'émission The Voice s'est hospitalisé près de Bordeaux après avoir été touché tôt ce matin au niveau du thorax sur une heure d'accueil des gens du voyage à Biscarrosse dans les Landes. Selon les informations de France Bleu Gascogne, lui explique s'être tiré dessus tout seul. Mais ce soir, le parquet de Mont-de-Marsan annonce l'ouverture d'une enquête pour tentative d'homicide volontaire. Après avoir eu son pronostic vital engagé, l'artiste est désormais hors de danger. Des membres de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, ont-ils été impliqués dans l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre dernier? Suite aux accusations d'Israël, c'est en partie à cette question que devait tenter de répondre un groupe indépendant présidé par l'ancienne ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Son rapport a d'ailleurs été publié ce soir et il l'affirme, Étienne Monin, Israël doit fournir des preuves.
Israël avait formulé deux types d'accusations. Elle avait d'abord accusé 12 employés de l'agence d'avoir participé au massacre du 7 octobre. Puis elle a estimé que 10% des personnels à Gaza étaient liés au groupe terroriste. Ce rapport ne répond pas à la première accusation, mais il indique clairement qu'il n'y a pas à ce stade de preuves apportées par les Israéliens pour la deuxième affirmation. Pour les auteurs du rapport, l'UNRWA est l'agence qui a le plus d'efficacité en matière d'intégrité. Elle soumet la liste de ses employés à Israël et depuis 2011, aucune réclamation n'a été formulée. En mars dernier, Israël a demandé aussi les numéros de carte d'identité des employés palestiniens. C'est à partir de là que le chiffre des 10% d'infiltrés a été formulé. Mais les rapporteurs considèrent qu'Israël n'a pas apporté de preuves pour ces accusations. Pour autant, l'UNRWA peut faire plus en matière de neutralité, d'après ce rapport.
Deux jours après le vote du Congrès américain sur l'aide de 61 milliards de dollars pour Kiev, le président des États-Unis et celui de l'Ukraine se sont appelés aujourd'hui. L'occasion pour Joe Biden d'en faire la promesse. Son pays fournira rapidement de nouvelles aides militaires importantes pour répondre aux besoins. De son côté, Volodymyr Zelensky remercie son homologue pour son soutien indéfectible. Il commence à peine, mais s'annonce déjà très, très mouvementé. Les débats ont débuté aujourd'hui au procès pénal de Donald Trump à New York. L'ancien président américain est accusé d'avoir acheté le silence d'une ancienne star du X juste avant le scrutin présidentiel de 2016. Les premières déclarations ont donc eu lieu il y a quelques heures et le ton est déjà donné, notamment de la part du procureur Loïc Loury.
40 minutes environ pour ce qui restera sans doute comme la plaidoirie d'ouverture la plus importante de sa carrière, celle de Matthew Colangelo, un procureur novice, le premier à prendre la parole ce matin. Donald Trump a menti encore et encore et encore, a-t-il immédiatement assuré aux jurés au 15e étage du tribunal de Manhattan. Sur sa chaise, le milliardaire secoue la tête alors que Colangelo l'accuse d'avoir tenté, en achetant le silence de Stormy Daniels, de corrompre la présidentielle de 2016. Le procureur présente ses complices, Michael Cohen, l'avocat et le fixeur de Donald Trump, David Pecker, le patron de presse chargé d'acheter et d'étouffer les affaires les plus embarrassantes. Il s'agit, résume-t-il, purement et simplement de fraude électorale. En face, l'avocat de la défense réplique « Le président Trump est innocent », dit-il ses premiers mots au juré. Donald Trump, lui, piquait du nez avant le début des plaidoiries.
Explication à New York de Loïc Loury pour France Inter. En France, un adulte sur 10 rencontre des difficultés à l'écrit, soit 4 millions de personnes. C'est ce qui ressort d'une étude de l'INSEE qui se base sur des chiffres de 2022. Difficulté par exemple pour déchiffrer un texte, écrire des mots ou encore comprendre un texte simple. Son parcours inspirera toute une génération. Ses mots élogieux sont ceux d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux et ils sont pour Sophie Adenau. Cette Française de 41 ans décroche son diplôme d'astronaute. Elle l'a reçu ce matin après une année de formation au centre d'entraînement de Cologne en Allemagne. Alors avant d'arriver dans l'espace, le chemin est encore long et Sophie Adenau en est consciente.
C'était chouette de recevoir ce diplôme et puis les ailes d'astronaute. Mais bon, moi, je dois dire que c'est juste une étape. Hein. C'est juste d'avoir le droit de passer à la seconde, hein, j'allais dire, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avant de pouvoir espérer un jour partir dans l'espace. Clairement, au fil des activités, toutes plus insolites les unes que les autres, que ce soit les stages survie, les entraînements en piscine, les entraînements robotiques, etc. Enfin, on a appris à se connaître et maintenant, on est vraiment une équipe hyper soudée, ça c'est clair. C'est quand même assez extraordinaire pour nous tous de savoir que chacun, on aura une mission sur l'ISS de 6 mois avant 2030. C'est magique. Et donc, au final, on se dit, bon, bah, c'est quoi? Si on a 1 an, 2 ans, 3 ans à attendre de plus, bon, bah, c'est rien dans l'échelle d'une vie d'astronaute.
Sophie Adenau sur France Info. Elle est la deuxième femme française à avoir été choisie pour partir dans l'espace après Claudie Aigneré dans les années 90. C'est toujours un événement, on peut le dire, dans le monde du rugby. La France et la Nouvelle-Zélande s'affronteront en novembre au Stade de France. Annonce de la Fédération française. Rendez-vous le 16 novembre à 21h10. Ce match fera partie de la tournée d'automne. Les joueurs de Fabien Galthié défieront également le Japon et l'Argentine. Et puis en football, soir de fête pour les supporters de l'Inter Milan, grâce à son succès 2-1 ce soir dans le derby contre le Milan AC, les interistes remportent le championnat d'Italie pour la 20e fois de leur histoire, et cela à 5 journées de la fin de la saison. L'Inter, club des internationaux français Marcus Thuram et Benjamin Pavard.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Que nous réserve le ciel? Eh bien, on va le savoir tout de suite avec vous, Élodie Calac.
La fraîcheur va se poursuivre, les températures remonteront seulement en fin de semaine. Demain matin, il faudra à nouveau composer avec de petites gelées de la Normandie et du Massif central vers le flanc est, ponctuellement sur le sud-ouest aussi. L'après-midi, vous aurez 8 à 12 degrés de la Manche vers le Massif central et les Alpes, 12 à 14 de la pointe bretonne au sud-ouest et 13 à 16 en Méditerranée. Côté ciel, du Massif central et du Berry vers le Jura, les Alpes et la Corse, quelques averses au menu, plus nombreuses l'après-midi à l'est du Rhône et parfois orageuses vers la Côte d'Azur et la Corse. Il y aura un risque de neige à basse altitude autour des massifs le matin, puis autour de 1000 mètres l'après-midi. Au sud de la Garonne, un peu de pluie qui persistera près des Pyrénées l'après-midi. De la Bretagne aux côtes normandes, là aussi quelques pluies. Et puis partout ailleurs, des éclaircies très belles le matin, mais plus discrètes au fil de l'après-midi.
Élodie Calac de Météo France pour la météo.